de bonnes conquêtes, un mauvais traité. Les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, la ville de Calais, voilà ce qu'on peut mettre à l'actif d'Henri II. Mais à l'issue du traité de Cateau-Cambrésis, l'Italie tout entière est abandonnée à l'influence des Habsbourg, ce qui est ressenti comme une humiliation dans le royaume. Henri II poursuit la politique de son père, une politique d'alliance avec les Turcs. Il étend aussi cette alliance aux princes protestants révoltés contre son ennemi, Charles Quint. Ces princes protestants ont besoin d'argent pour conduire leur lutte. Henri leur donne des sommes considérables, mais demande en échange les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, afin de consolider les frontières du royaume. Immédiatement, Charles Quint réagit en assiégeant Metz, qui ne se rend pas, bien défendu par François de Guise, entre octobre 1552 et janvier 1553. Henri et Charles se font encore la guerre, notamment en Italie, mais leurs finances s'épuisant, ils décident de signer la paix à Vaucelles en 1556.
Le coup de Jarnac. Guy Chabot, baron de Jarnac, beau-frère de Diane de Poitiers, aimait étaler un luxe et une magnificence que tout le monde devinait au-dessus de ses moyens. Un jour, le futur Henri II lui demanda d'où lui venait tout cet argent. Guy Chabot lui répondit que sa belle-mère l'entretenait. L'entretenait ? Henri s'engausse et va répétant que Jarnac couche avec sa belle-mère. Jarnac se fâche, mais ne peut régler l'affaire en duel, car Henri, le dauphin de France, n'est pas autorisé à se battre avec un simple gentilhomme. Henri désigne alors un remplaçant, le seigneur de la Châtaigneraie. Mais la Châtaigneraie est robuste, quasiment invincible. Jarnac est fluet, mince, fragile. François Ier refuse que le duel ait lieu. Aussitôt que son père meurt, Henri II autorise le combat qui doit écraser Jarnac. La cour est réunie pour le spectacle le 10 juillet 1547 en forêt de Saint-Germain. Jarnac a eu le temps de prendre des leçons de maniement des armes auprès d'un maître italien qui lui a enseigné une botte secrète. Le combat commence. On n'a Dieu que pour le puissant la Châtaigneraie. On a pitié du chétif Jarnac. Soudain, la foule des spectateurs n'est plus qu'un cri. Jarnac ! Jarnac vient de porter sa botte secrète, son fameux coup, le coup de Jarnac. Celui qui surprend, un coup imprévu, mais parfaitement loyal. Il a coupé le jarret gauche de la Châtaigneraie qui s'effondre, perdant son sang en abondance. On l'emporte pour le soigner, mais le vaincu refuse qu'on arrête son sang. Il ne peut survivre à cette défaite. Il meurt dans la nuit. Alors, le coup de Jarnac, de l'imprévu mais rien de déloyal. De quoi corriger peut-être ce que vous croyiez jusqu'à présent.
Bouche ouverte. Charles Quint a toujours la bouche ouverte. Non pour parler, mais pour respirer. En effet, les végétations ont envahi son nez et sa gorge. Elles ont proliféré au point que sa grande bouche au prognathisme aigu, sa mâchoire inférieure est interminable, apparaît comme un antre inquiétant où s'engouffrent à chaque repas des quantités impressionnantes de nourriture. Son médecin a beau lui dire de la fermer, il n'en fait rien, et de plus en plus triste, gagné peu à peu par une sorte de stupeur ébahie, le fils de Jeanne la Folle décide d'abdiquer le 16 janvier 1556. Il donne à son fils Philippe II l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et les Amériques. Son frère devient empereur d'Europe centrale.
Charles Quint assiste à ses propres funérailles. Étonnant, étrange, Charles Quint. Le 21 septembre 1558, il meurt. Rien d'étonnant ou d'étrange, direz-vous. Non, sauf que Charles Quint, un mois avant sa mort, avait décidé d'assister à ses propres obsèques. Il les avait fait organiser exactement comme elles se dérouleraient quand il serait vraiment mort. Et il avait prié pour lui-même, pour le repos de son âme, encore bien installé dans son corps. Il s'était vêtu de noir, tenait un cierge à la main. Charles Quint, fils de Jeanne la Folle.
Que se passe-t-il sans tarder après l'abdication de Charles Quint ? Oui, vous l'avez deviné, la guerre contre la France. Dans un premier temps, les Espagnols alliés aux Anglais remportent la victoire de Saint-Quentin le 10 août 1557. Le connétable Anne de Montmorency est fait prisonnier. Philippe II, le nouveau roi d'Espagne, décide alors, pour célébrer sa victoire ce 10 août 1557, jour de la Saint-Laurent, de donner au plan du palais de l'Escurial qu'il fait construire la forme de la grille du supplice subi par le Saint-Martyr. Les Espagnols et les Anglais pourraient se ruer vers Paris. Ils ne le font pas. Henri II en profite pour reprendre Calais, ville anglaise depuis 2 siècles. La guerre va-t-elle continuer ? Non. Dans des conditions fort défavorables au royaume de France, le traité de Cateau-Cambrésis est signé en 2 temps. Les 12 mars et 2 avril 1559 avec l'Angleterre et le 3 mars avec l'Espagne. La France renonce à la plupart de ses conquêtes et à ses prétentions sur l'Italie. En revanche, elle conserve Calais, Metz, Toul et Verdun. La paix est faite, les guerres d'Italie sont terminées par le mariage de la tante du roi, Marguerite, au duc de Savoie. Henri II, le fervent catholique qui a institué des chambres ardentes pour condamner à mort les hérétiques, a les mains et l'esprit libres pour s'attaquer aux réformés qui les fraient. Mais le jeudi 30 juin 1559,